Ce message vous est présenté par le site adoredieu.com.
Je vais t'adorer pour l'éternité. Pour l'éternité, je vais t'adorer.
Nous lirons un premier verset qui se trouve dans Luc au chapitre 2, versets 34 et 35. Où il est dit, Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, voici cet enfant. Elle a pour la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Et comme un signe qui provoquera la contradiction, et toi-même une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient révélées. Et nous lirons encore un autre passage dans l'évangile de Matthieu, chapitre 12. À partir du verset 38 jusqu'au verset 42. 38 à 42, Matthieu 12. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, « Maître, nous voudrions voir un signe de ta part. » Il leur répondit, « Une génération mauvaise et adultère recherche un signe. Il ne lui sera donné d'autre signe que celui du prophète Jonas. » Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se dresseront lors du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se sont repentis à la prédication de Jonas. Et voici qu'il y a ici plus que Jonas. La reine du Midi se lèvera lors du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle est venue des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici qu'il y a ici plus que Salomon. Alléluia. Frères et sœurs, le monde n'a pas changé. Le monde n'a pas changé fondamentalement. Superficiellement, oui, il a changé. Autrefois, on voyageait à dos de chameau, ou à pied, ou avec des chevaux et des bateaux à voile sur les mers. Oui, la technique a changé, le monde s'est beaucoup développé dans la connaissance des choses de la science, du pourquoi et du comment. Dans ses études, l'homme a découvert tant de choses et de merveilles. L'homme a découvert et il a appliqué ses merveilles, car l'homme n'a rien inventé, puisque tout a déjà été inventé. L'homme n'a fait que d'imiter ce que Dieu a fait. Et c'est ainsi qu'il a maîtrisé beaucoup de disciplines, mais ceci ne l'a pas rendu meilleur. Et fondamentalement parlant, le cœur de l'homme est exactement ce qu'il était autrefois. Tortueux par-dessus tout. Tortueux par-dessus tout. Calculateur, cherchant son avantage, plus que n'importe quoi. Et même, je dirais, le monde religieux, il est aussi fourbe. Oui, mes frères, il y a une grande différence entre l'homme religieux et l'homme spirituel. Beaucoup d'hommes et de femmes ont une religion, ils sont religieux, mais ils ne sont pas spirituels. Ils vont à travers des rites, ils vont à travers une tradition, ils suivent un chemin tracé par d'autres, comme des automates, et ils s'appuient pour leur salut sur ce que disent un autre, sans sonder eux-mêmes. Ils se disent religieux parce qu'ils vont à travers un rituel et c'est tout. Le monde religieux. C'est le monde religieux et ce sont les religieux qui ont crucifié le Seigneur de gloire et qui l'ont rejeté. Non, le monde n'a pas changé. Nous sommes pleins de religions dans notre ville de Kinshasa. Nous sommes pleins de religions dans notre monde d'aujourd'hui. Mais le monde ne va pas mieux. Nous sommes pleins de christianisme à 90%. La République du Congo se réclame du christianisme. Mais où va le Congo? Où va notre société? Dans la corruption, dans la magouille jusqu'au cou, en s'embourbant dans les choses mauvaises et la corruption. 90% de quoi? De religieux peut-être, mais non de spirituel. Oh Dieu! Change cet état de choses. Fais de nous des hommes et des femmes spirituels qui marchent par l'esprit. Les religieux ont crucifié le Seigneur de gloire. Le monde n'a pas changé. Les religieux sont les mêmes. Là, ils disent à Jésus, et ils parlent au Seigneur, « Maître, nous voudrions voir un signe de ta part. Nous voudrions voir un miracle. Montre-nous un miracle afin que nous croyions. » Ils ont vu des miracles, ils n'ont point cru. Ils ne verront plus de miracles. « Montre-nous un signe, un miracle, à tout prix. » Si vraiment, Seigneur, tu es l'homme que tu prétends être, si vraiment, Seigneur, véritablement, si tu as l'onction, alors montre-nous un signe, un miracle, fais quelque chose afin que nous te reconnaissions comme tel. Prouve-nous. Jésus n'a rien à prouver. Alléluia. Jésus n'a rien à prouver. Et Jésus n'a jamais accepté les manipulations des hommes. Je sais qu'on manipule énormément dans la politique, on manipule énormément dans les affaires, on manipule énormément au niveau des hommes pour avoir une influence et pour prouver aux autres que je suis capable, pour prouver aux autres que moi j'ai l'autorité, que pour prouver aux autres que moi je peux bien les diriger. Écoutez les campagnes électorales qui se passent dans le monde. Mes amis, quand vous entendez tous ces orateurs, ils ont la solution à tous les problèmes, mais une fois qu'ils ont le pouvoir, où est la solution? Jésus n'a rien à prouver, lui. Il n'est pas en campagne électorale, Jésus. Le monde est à lui. Le monde est à lui. Et il est venu former une nouvelle société, mon sauveur. Une société où la justice habitera, où la vérité règnera. Une société où la corruption ne sera plus, où le mensonge ne sera plus, où celui qui s'engage fait ce qu'il a dit. Où l'homme est à la hauteur de ses responsabilités. Oui, il veut nous changer pour être à son image et lui ressembler. Jésus, montre-nous un miracle. Fais un miracle. Nous voyons que le monde n'a pas changé parce que l'idée est encore aujourd'hui dans le monde, est encore aujourd'hui dans notre ville de Kinshasa. Cela ressemble à la tentation de Satan quand il disait à Jésus, « Si tu es fils de Dieu, change ces pierres en pain. Si tu es fils de Dieu, Jésus sait qu'il est fils de Dieu. Il n'a pas besoin de le prouver à Satan. Et Satan sait qu'il est le fils de Dieu. Mais voilà sa méthode. Voilà sa méthode. Prouve ce que tu es. Les gens regardent à toi. Montre ce que tu sais faire. Allez, vas-y, fais des miracles. Montre aux autres que tu as l'onction. Ça, c'est la mode d'aujourd'hui, vous voyez ? La mode d'aujourd'hui. Il y a des modes comme ça. On peut faire tout un tracé. Si on veut voir l'histoire de notre ville de Kinshasa, il y a des modes de tout genre qui passent. Oui, justement, ça passe. C'est la preuve que Dieu n'était pas là. Parce que ce que Dieu fait, ce qui est de lui, demeure et demeure éternellement. Quoi que fassent les hommes. Quoi que fassent les hommes. Oui, Jésus vient de passer là 40 jours dans le désert. Dans le désert de Judée, probablement près d'une source d'eau où il pouvait boire. Aucun homme ne peut subsister s'il ne boit pas. Et il y a des sources d'eau là dans ce désert de Judée. Dans ce désert parcouru de pierres et de plantes, rabougries, là une petite source qui sort de la terre. Et tout autour, un peu de végétation. Mais il est dit qu'il a jeûné. Et dans la Bible, quand on dit et qu'on parle de jeûner, on ne prend aucune nourriture. Si on prend une petite soupe le soir, si on prend un petit morceau de pain le soir, c'est bien. Mais ça, c'est demi-jeûne. Faisons attention à nos expressions. J'ai jeûné pendant 40 jours. Ah oui, comme Jésus. Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Bien sûr qu'il avait faim, Jésus. Dans son corps humain, il vous désirait manger. Bien sûr que son corps réclamait de la nourriture et qu'il était affaibli. Mais Jésus n'a rien à prouver à Satan. Il sait qu'il est le fils de Dieu. Et cette puissance est ce pouvoir, il ne va pas l'utiliser pour prouver aux autres qu'il a l'onction. Non, elle ne va pas le faire à cause de la pression. De la pression des besoins, de la pression de la foule, de l'image qu'il veut donner, de la réputation qu'il veut donner, de la preuve qu'il a un ministère. Non, il n'a rien à prouver. Jésus, vous remarquez la tentation de Satan. Prouve aux autres que tu es vraiment appelé. Prouve aux autres que tu as vraiment l'onction. Prouve aux autres, fais quelque chose. Jette ta veste sur la foule. Pousse les gens par terre pour qu'ils tombent par terre. Manipule la foule pour qu'ils réagissent comme tu désires qu'ils réagissent. Attention, mes frères. Si tu es fils de Dieu, change ces pierres en pain. Jésus n'a même pas répondu. Et il lui a répondu par la parole. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Car c'est une parole qui nourrit le cœur, qui nourrit l'âme. Il lui dit encore, jette-toi en bas, car il est écrit. Oui, il connaît la parole de Dieu, lui aussi. Il y a plein de gens qui vont venir avec la parole sous le bras et vous prouver que ce qu'ils font est juste, que ce qu'ils font est vrai. Comme ceux qui soufflent dans le micro. Et ils disent, voilà, vous allez recevoir l'Esprit parce que je souffle dans le micro. Et ils disent, voilà, oui, Jésus a soufflé sur les disciples après sa résurrection. Et ils n'ont rien compris à ce que Jésus a fait. Frères et sœurs, il y en a beaucoup qui s'en vont encore avec la parole sous le bras et ils disent, la Bible dit que, sans comprendre ce que la Bible dit, jette-toi en bas car il est écrit. Jésus n'a rien à prouver. Si tu es fils de Dieu, fais des miracles. Si tu es fils de Dieu, fais des signes. Prouve-nous que tu as l'onction. Tu te dis pentecôtiste, alors, prouve-nous que tu as l'onction. Fais quelque chose qui puisse faire voir que tu as l'onction. Des miracles, quelque chose, une manifestation. La mousse, la mousse, la mousse. Mais qu'est-ce qui reste après? Tout le monde peut manipuler tout le monde. Tout le monde peut psychologiquement agir sur une foule d'une façon ou d'une autre. Mais c'est ce qui reste qui est la preuve de l'onction. Jésus n'a rien à prouver et pourtant il est loin. Si tu es véritablement serviteur de Dieu, si tu es véritablement rempli de l'Esprit, prouve ton onction, prouve ton ministère par des signes, par des miracles. C'est exactement ce que la foule demande à Jésus. Maître, nous voulons voir un signe de ta part. Fais quelque chose, un signe surnaturel. Alors, nous pourrons dire que tu es fils de Dieu, nous pourrons dire que tu as l'onction. Ils en ont vu, ils ne verront plus. Le miracle n'est pas pour la publicité personnelle. L'onction n'est pas pour prouver quoi que ce soit aux autres. Non. L'onction n'est pas pour manipuler une foule. L'onction, c'est quelque chose qui vient d'en haut. C'est quelque chose qui est donné. Et c'est quelque chose qui est vu quand elle est là et qui n'est pas vu quand elle n'est pas là. Et cette onction ne se manifeste pas forcément avec quelque chose qui se voit, mais se manifeste dans le cœur des hommes lorsque la parole, la vraie évangile est prêchée, est annoncée. Cette personne est bouleversée, elle est changée, elle est transformée. Il se passe un miracle, le plus grand des miracles. Cette personne passe de la mort à la vie. Miracle. Mais miracle, il y a. Miracle et signe. Mais signe, il y a. Que cherches-tu de plus? Quelque chose pour toi, pour qu'on dise, lui, il a l'onction. Serait-ce l'homme qui fait le miracle alors? Oh, c'est un miracle mensonger dans ce cas-là. Non, c'est Dieu qui, par son esprit, fait le miracle. Et le miracle, quand il est là, il est réel. Ce miracle représente quelque chose que l'homme ne peut pas faire. Voilà. Transformer une vie, changer une destinée, donner une nouvelle vision, guérir un corps, ouvrir les yeux des aveugles. L'homme ne peut pas le faire. Le miracle est réel. Comme nous le disions dimanche dernier, j'aimerais le répéter sous une autre forme. Nous sommes dans le surnaturel. Car tout ce que nous faisons est surnaturel. Je ne crois pas à une religion sans surnaturel. La parole que nous prêchons est surnaturelle. La personne que nous annonçons est surnaturelle. L'esprit qui nous habite est surnaturel. La vie que nous sommes appelés à vivre est surnaturelle. Le livre que nous lisons est surnaturel. L'avenir, le futur que nous avons devant nous est surnaturel. Tout est surnaturel, est miraculeux. Nous vivons dans le miraculeux et nous n'avons pas besoin de le fabriquer. Et si Dieu veut faire ce miraculeux d'une façon ou d'une autre, c'est l'action de Dieu et ce n'est pas l'action de l'homme qui, par des manipulations, provoque quelque chose qui est vu de tous et qui attire les yeux des autres sur l'homme. Non, mes frères, les yeux doivent être attirés sur la personne de Jésus-Christ. Jésus seul. Qu'ai-je à vouloir le prouver? Qu'ai-je à vouloir prouver à Satan qui me dit, montre ce que tu sais faire, fais un miracle, car il est écrit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il connaît la parole. Donc, il n'y a pas de miracle, donc tu n'as pas l'onction. Quoi donc? Qu'est-ce que tu appelles miracle, toi? Reste à définir. Il est vrai que Satan peut faire des miracles. Et là, je ne veux pas tomber dans son piège. Je ne veux pas des miracles mensongers. Je veux une manifestation de la puissance de Dieu. Alors, oui, il est dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est juste. Alors, je vais m'efforcer de prouver aux autres, afin qu'ils me reconnaissent, que les miracles accompagnent mon ministère. Mais, quand tu parles ainsi, tu ne vois que les miracles, disons, que tout le monde voit. Les aveugles qui voient, les paralytiques qui marchent, gloire à Dieu pour cela. Je l'ai vu dans ma vie. Je l'ai vu dans ma vie, mais combien d'aveugles qui ont vu n'ont pas suivi Christ? Combien de paralytiques qui ont marché n'ont pas suivi Christ? Malheureusement, c'est à pleurer, et j'en connais beaucoup dans cette ville. Seigneur, je veux voir des miracles. Seigneur, si tu veux ouvrir les yeux des aveugles, tu le fais, et je te glorifie pour cela. Et délivrer les sidatiques, et les posséder, et les occultes. Seigneur, je crois cet évangile et je le prêche. Seigneur, ce miracle, je veux le voir, et je sais que je le verrai, et que je le verrai encore, et je l'ai vu, et je le verrai encore. Mais Seigneur, ce miracle au fond du cœur, ce changement, cette transformation, cette chose merveilleuse qui fait d'un homme esclave du péché, emprisonné dans les prisons de Satan, dans la drogue, dans la débauche, et quoi encore? Qui change? Il ne peut se changer lui-même. N'est-ce pas un miracle? L'homme ne peut pas le faire. Et je ne peux pas changer la vie d'un autre par des manipulations. Ce n'est que Dieu qui peut le faire. Les miracles, les signes, viendront d'eux-mêmes si nous faisons ce que nous devons faire. Et que devons-nous faire? Comme il est dit dans Marc, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Voilà ce que nous devons faire. Quant au reste, il dit, et voici les miracles qui accompagneront. Ces miracles accompagneront. Accompagneront, vous m'entendez? C'est pas moi qui les fais, c'est lui qui les fait. Pourquoi? Parce que je prêche l'évangile. Alléluia. Je crois à cet évangile, frères et sœurs. J'y crois. Mais je ne crois pas à la manipulation des hommes. Dieu parle souvent aux hommes de différentes manières, car il veut attirer leur attention sur les choses éternelles et les valeurs qui demeurent. Car il sait que les hommes ont des yeux mais ne voient point, ont des oreilles mais n'entendent point, car ils sont complètement bloqués par le péché. Par le péché et par les distractions du monde. Ils sont distraits, ils n'ont pas le temps. La politique prend toute leur attention. Les choses, les problèmes économiques, toute leur attention. Ils passent des heures supplémentaires à travailler pour avoir une meilleure vie. Ensuite, ils vont boire quelque chose au bar et la musique remplit tout l'espace. Leur esprit est continuellement sous tension, occupé par ceci, occupé par cela, par les bruits du monde. Par les bruits du monde à tel point qu'ils ont des oreilles et n'entendent pas la voix de Dieu. Ils ont des yeux et ne peuvent percevoir les choses de la vie éternelle. Alors, Dieu secoue, parce qu'il aime. Il a secoué notre pays, il a secoué notre société, il l'a secoué. Et nous avons tremblé, et nous avons couru dans les églises, et nous avons prié, et nous avons dit, il faut prier. D'accord. Venez, remplissez encore. Mais... demandez à Dieu qu'il vous ouvre les yeux et qu'il vous ouvre les oreilles. Vous êtes trop absorbés, nous ne sommes trop absorbés par tous les bruits du monde. Dieu a secoué notre nation, mais si nous ne faisons pas attention, il va la secouer encore bien plus fort. Dieu déteste le péché. Il déteste la corruption. Il déteste le mensonge. Il déteste l'injustice. Et nous ne sommes pas encore sortis de toutes ces choses-là. Il déteste le tribalisme. Il déteste ces choses-là. L'homme doit être jugé pour ses qualités. Et vous ne pouvez pas mettre sur sa conscience et sur lui tous les péchés du passé. Il y a miséricorde auprès de Dieu. Tu veux qu'il te fasse miséricorde, fais miséricorde aux autres. C'est ainsi. Lorsque Dieu agit par des signes de tout genre, il amène les hommes à la réflexion. Ils s'arrêtent dans leur course effrénée. Ils s'arrêtent lorsque Dieu tarit la source du revenu. Ils s'arrêtent lorsqu'il n'y a plus rien sur la table à manger. Ils s'arrêtent et ils commencent à réfléchir. Oh Dieu ! Ah voilà, c'est ça que je veux. Tu n'as pas pensé à moi pendant tout ce temps. Il faut que maintenant tu sois harcelé dans le besoin, dans la misère et dans la maladie pour que tu cries à moi. Eh bien, tu seras dans la misère et la maladie parce que je veux sauver ton âme. C'est ainsi qu'ils sauront qu'il est le Dieu vivant, qui est au-dessus de tout. Et qu'il est le maître, oui, le maître de toute grâce, le maître de éclater. Et vous saurez que moi, je suis l'Éternel. Ah, c'est une parole que nous voyons des dizaines de fois dans la Bible. Afin qu'il sache que je suis l'Éternel. Vous saurez que je suis l'Éternel. Vous devez savoir qui est l'Éternel. Et c'est pour cela que j'ai fait ces prodiges, et c'est pour cela que j'ai permis ces destructions, et c'est pour cela que j'ai laissé faire ces guerres et ces épidémies, et c'est pour ça, afin que vous sachiez que je suis l'Éternel. Le signe attire l'attention des hommes et les font réfléchir. Ces signes peuvent être de toutes sortes de natures, de toutes sortes de formes, mais ils ont pour objet d'attirer l'attention des hommes. Ils peuvent être ces signes naturels ou surnaturels. Ils ont pour but de secouer l'apathie et l'indifférence des hommes pour qu'ils réfléchissent et se tournent vers leur Créateur dans la repentance. C'est Dieu qui se fait voir par les signes, qui rappelle à l'homme qu'il y a une autorité supérieure. L'homme alors se sent tout petit. Lorsque les éléments se déclenchent, lorsque la tempête souffle et que le vent souffle à plus de 200 km à l'heure, lorsque les pluies diluviennes arrosent la terre et l'inondent, emportent et ramassent les maisons, lorsque les maladies arrivent et que la terre tremble et ouvre sa bouche et avale des maisons et des quartiers entiers, N'est-ce pas Dieu qui parle?
Les hommes vont vous dire, oui, mais voilà, c'est parce que les plaques continentales à tel moment se cognent les unes contre les autres, s'efforcent, s'amassent, et subitement il y a un dégagement, et ça provoque un tremblement de terre, et patati et patata.
Moi je sais qu'il y a une autorité au-dessus de tout, et qu'il tient les étoiles dans l'espace, qu'il tient le soleil dans l'espace, et c'est lui qui le fait lever le matin et coucher le soir. C'est lui qui fait tourner cette petite boule dans l'espace où nous sommes. Il tient le monde dans sa main et il fait ce qu'il veut. Et il avertit les hommes. Dieu parle aux hommes. Dieu n'est pas silencieux. Il parle dans le secret des cœurs. Job 33, verset 14 dit, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il donne une impulsion au cœur. Il donne un fardeau. Il donne un désir ardent dans le cœur pour une cause qu'il voudrait voir être avancée. Il met au cœur un projet à réaliser. Il donne la moyen de réaliser ce projet. Il donne une idée dans le cœur d'un homme. Il parle par sa parole lorsque cette parole est annoncée ou qu'elle est lue. Il parle par les circonstances qui nous entourent. Il parle par un message, il parle par une vision, il parle par un signe, par quelque chose qui secoue l'intelligence de l'homme et qui sent, il sent, oui, c'est Dieu qui me parle. Mais quand il parle, ce n'est jamais, jamais en contradiction avec sa parole. Job nous dit ceci, « Oh, si Dieu voulait parler, tu verrais alors qu'il ne te traite pas selon ton iniquité. » Job 11, 5, 6. Tu verrais alors qu'il ne te traite pas selon ton iniquité. Sachons bien que l'ennemi, Satan, essaye par tous les moyens à jeter la confusion. Nous avons l'habitude d'entendre ici des milliers d'hommes et de femmes, religieux, chrétiens, fidèles, même certains d'entre eux, tous les jours, ils parlent, Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé. Ah, attention, Satan essaye toujours à vulgariser les choses de Dieu. À vulgariser les choses de Dieu. Il essaye toujours à faire passer pour être de Dieu ce qui n'est pas de Dieu. Il le fait à travers la chair. Oui, Satan, bien souvent, a accès à nous qui avons cru à travers la chair. Il ne peut pas dans notre esprit, nous sommes sauvés. Mais la chair, c'est ce qui va disparaître. Un nouveau corps nous sera donné. Et dans la chair, nous avons à lutter contre le péché. C'est toujours la chair, la chair, la chair. C'est pour ça que Jésus dit, elle doit être crucifiée, la chair. Et à travers la chair, il essaye de nous inculquer des idées. Et nous allons dire, Dieu m'a parlé. Par la chair, par les émotions, par les désirs naturels, par les légitimes, par les ambitions, par la logique, par les raisonnements, par l'intelligence naturelle, il essaye lui aussi de nous parler. Et nous allons dire des bêtises. Dieu m'a parlé. Oh, à travers les quelques années que j'ai vécues sur cette boule qui s'appelle la Terre, j'ai vu des trucs. J'ai vu des choses. J'appelle ça des trucs parce que pour moi, c'est pas sérieux. Je me souviens, pour donner un seul exemple, il y en aurait beaucoup, mais un seul suffira. Je me souviens, lorsque j'étais encore tout jeune, je me venais de me marier, je lisais une revue qui venait des États-Unis, magnifique, avec le ministère de cet homme, c'était formidable, formidable, je lisais toujours. Et j'ai vu, Dieu lui a parlé, il écrit en grosses lettres dans son journal, Dieu lui a parlé, il doit construire une maison, comme ceci, comme cela, comme ceci, comme cela. Dieu lui a parlé, il l'a vu, il connaît, alors donnez-moi l'argent pour réaliser le plan de Dieu. Il a construit sa maison, moi je ne voyais rien de mal, pourquoi? Dieu peut parler, hein? Bien sûr. Il a construit sa maison. Mais lorsque je suis allé aux États-Unis en 1971 et que j'étais dans cette ville, j'ai voulu voir parce que j'avais lu à ce sujet. Et j'ai trouvé l'adresse, je suis allé voir cette maison qui avait été une, entre guillemets, révélation. Eh bien, il l'avait vendue déjà depuis quelques années et c'était une société d'assurance qu'il avait achetée. J'étais déçu. Oh Dieu, que d'erreur tu fais aujourd'hui? Ah, attention, vous dites que Dieu m'a parlé, vous faites quelque chose, et ce quelque chose ne réussit pas d'une façon ou d'une autre. Attention, vous avez fait Dieu menteur. Comme cet homme, cet autre. Oh, non, ça suffit, ça suffit.
Dieu m'a parlé, donc vous devez m'aider. Donc voilà, il faut donner l'argent pour réaliser la vision que Dieu m'a donnée. Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé.
Donc bon, d'accord, le temps prouvera si Dieu t'a parlé. Je peux vous donner combien d'exemples. Peut-être les doigts de mes mains ne suffiront pas.
Pourquoi ? L'impulsion de la chair, le désir de la chair, une vision qui n'a pas été donnée par Dieu. Attention !
Ne soyons pas rapides à dire « Dieu m'a parlé, je vous en supplie ».
Certains disent cela simplement pour imposer leur volonté. Donc « Dieu m'a parlé, vous n'avez rien à dire, c'est l'autorité supérieure qui m'a parlé ».
Alors taisez-vous, je ne suis pas prêt à écouter vos conseils.
Oui, vous venez vers moi, vous dites « Dieu m'a parlé », ça va, je vous écoute et je vous laisse partir. Que vais-je vous dire ? Méfions-nous de nous-mêmes, éprouvons-nous, afin de ne pas mettre sur Dieu ce qui ne vient pas de Dieu, mais ce qui vient de nous, de notre enthousiasme, de notre désir, de notre zèle peut-être.
Mais Dieu n'a jamais parlé.
Vous pensez que ce que vous devez faire vient de Dieu ?
Oui.
Alors soyez discret. Qui vous a dit de crier sur les toits « Dieu m'a parlé » ? Combien d'hommes et de femmes ont gaspillé ce que Dieu voulait faire avec eux ? Pourquoi ? Parce qu'ils se sont vantés. Dieu m'a parlé.
Il y avait des mauvaises motivations. Moi, j'ai un contact direct avec lui. Hein? Attention, il m'a parlé. Et même s'il vous a parlé, il est déçu quand vous faites comme cela.
Sache, gardez le secret entre toi et lui. Et agissez. Et le résultat démontrera la direction divine dans votre action.
Et tout le monde dira, véritablement, il a eu une vision de Dieu.
Véritablement, ce qu'il a fait, c'était de Dieu. Et la gloire n'ira pas à l'homme, mais à celui qui a commandé.
L'homme n'a que obéi. Un jour, les apôtres demandèrent à Jésus un signe de son avènement. Dans Matthieu 24, 3.
Quel sera le signe de ton avènement à la fin du monde ?
Jésus, à leur demande, leur donne non pas un signe, mais
19 signes.
Quand vous verrez ceci, quand vous verrez cela, quand vous verrez celle-ci, quand vous verrez cela, vous savez que le retour du Fils de l'homme est proche.
Car les signes, comme les prophéties, doivent être considérés attentivement si on veut pénétrer les choses annoncées. Et sachez que Dieu ne fait jamais une erreur.
Un signe est comme une parole prophétique. C'est Dieu qui parle, et si Dieu parle, il ne se trompe pas. Et ce qu'il a dit s'accomplira. Et voilà le signe du vrai prophète. Voilà le signe de celui auquel Dieu a parlé.
Dieu a parlé par des signes. Israël n'a pas su discerner les signes donnés par Dieu. Le signe du serpent d'airain.
Vous avez lu votre Bible ? Les Israélites étaient venus à ce lieu dans le désert, dans leur voyage vers le pays de Canaan, infestés de serpents. Ils sont arrivés là et c'est comme si ces serpents sortent des rochers de partout et ils envahissent le camp, ils mordent ici, ils mordent là et ce sont des serpents venimeux et les gens meurent. Ils vinrent vers Moïse. Moïse fait quelque chose. Moïse cria à l'Éternel. Alléluia. Merci Seigneur pour ceux qui crient à toi.
Et Dieu lui dit, voilà, oui, Dieu lui a parlé, alléluia. Dieu lui a parlé. Il a dit, fais un serpent d'airain, mets-le sur une perche, et tous ceux qui regarderont au serpent vivront.
Est-ce que Moïse est allé dire partout, Dieu m'a parlé ? Non, il s'est mis au travail. Il a fait ce que Dieu avait dit de faire. Et il a dit au pape, regardez là si vous êtes mordus. Les gens agonisants, les douleurs du poison qui était dans leur corps, regardaient à ces signes et la vie revenait. Alléluia. Alors Jean 3, 14, s'est écrié, « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Signe ! Signe que les hommes n'ont pas su reconnaître. Oui, Jésus comparé à un serpent. C'est vrai ! Pourquoi ? Parce qu'il a pris
les péchés du monde entier sur lui. Il s'est fait pécher à tel point que Dieu l'a abandonné et il s'est écrié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi? Mais à cause de mon péché, à cause de ton péché, il a été péché. Il était le péché cloué sur le bois et Dieu ne pouvait plus le regarder ni s'occuper de lui. Le serpent. Mais toi qui es mordu par ce serpent, empoisonné par le poison du péché, alors que tu agonises sur le chemin et sur la route, lève les yeux et regarde à Golgotha, car là, ton péché a été cloué. Signe. Et le signe de Jonas, il ne vous sera pas donné d'autre signe que le signe de Jonas, signe de son ensevelissement, signe de sa résurrection, car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Et il y a aussi le signe royal, nous l'avons lu tout à l'heure, quand il dit, et voici, en parlant de Salomon, et voici, il y a ici plus que Salomon, il y a ici plus que Jonas. Mais pour les Juifs, tout cela n'était que des signes contradictoires. Le Messie devait être roi et non un crucifié pendu au bois comme un serpent du temps de Moïse ou comme un tombeau dans le corps d'un grand poisson comme Jonas qui a été vomi après sur la berge. Le signe, ils ne l'ont pas reconnu. Job 33, 14 dit, « Dieu parle, mais personne n'y prête attention. » À cause de ses idées préconçues, à cause du péché qui est dans son cœur, on voit sans voir, on entend sans entendre. Seul l'homme spirituel peut comprendre ces choses. Et regardons encore aux mages, ces hommes qui viennent de l'Orient, ils ont vu un signe. Là-bas, loin, ils craignent Dieu. Ils lisent la parole et les Écritures d'Israël. Ils savent que le roi va venir. Ils l'ont compris dans les prophéties. Alors qu'en Israël, les docteurs de la loi ne l'ont pas compris. Tout cœur droit comprendra. Ils étaient embourbés dans leur tradition et ils n'ont rien compris. Mais ces hommes de l'Orient, de loin, ils n'étaient pas des Israélites. Ils ont su. Et ils ont reconnu le signe. Alléluia. Et ils ont suivi le signe. Et ils ont marché pendant des mois. Pourquoi? Ils cherchaient le roi qui doit régner. Mais quand ils arrivèrent, quel contraste! Quelle contradiction! Ils trouvèrent un enfant pauvre. Mais leur foi surmonta l'apparence. Ils reconnurent dans ce petit enfant, dans ce petit homme, l'homme par excellence, le Dieu créateur, le roi qui doit régner, et ils l'adorèrent. Il fallait une foi profonde, il fallait une foi robuste aux contemporains de Jésus pour se guider en ce milieu apparemment contradictoire. Il y avait contradiction. Pour Marie, l'ange lui avait dit, dans Luc 1, 32 à 33, « Le Seigneur Dieu lui donnera, en parlant de l'enfant, le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il règnera sur la maison de Jacob, éternellement, et son règne n'aura pas de fin. » Voilà ce que l'ange avait dit. Mais voilà, ce roi qui doit régner éternellement, dont le règne n'aura pas de fin, il naît à la fin d'un voyage pénible, sans maison, sans berceau, dans le dénuement le plus complet. Quelle contradiction! Après plus de 3 ans de ministère, il est cloué au bois. Seule l'inscription placée par Pilate sur la croix peut rappeler à Marie ce que l'ange lui avait dit. Pilate avait inscrit « Jésus de Nazareth, roi des Juifs ». Quelle énigme! Quelle contradiction! Mais elle se souvient des paroles de Siméon lorsqu'ils l'ont apporté au temple. Siméon avait dit, voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction et à toi, une épée te transpercera l'âme. Il est dit que Marie conservait toutes ces paroles, elle les repassait dans son cœur. Elle devait bien souvent comparer. Qu'est-ce que cela veut dire? Il semble qu'il y a contradiction jusqu'au jour où elle a pu faire la synthèse du double aspect du Fils de Dieu. Déjà dans l'Ancien Testament, les prophètes avaient parlé, mais personne ne l'a compris. Dans l'Ancien Testament, au chapitre, Ésaïe a parlé, au chapitre 53, au verset 3, méprisé et abandonné des hommes. Homme de douleur et habitué à la souffrance. Voilà ce qu'Ésaïe avait dit. Mais ils n'ont pas su le reconnaître. Oui, contradiction. Contredit. Et les paroles de Siméon. Les paroles de Siméon reviennent à son esprit. Et puis, il sera roi. C'est ce qui est dit aussi. L'ange lui a dit, il règnera. Comment comprendre la logique de tout cela? Sous l'apparente contradiction de la vie de Jésus, il y a le mystère de la rédemption. Il sera l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde en venant pour la première fois sur la terre. Et il sera le lion de la tribu de Juda en venant pour la seconde fois afin de régner. D'abord le serviteur, d'abord le sacrifice, d'abord celui qui enlève le péché, après le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Mais ça, ils ne l'ont pas compris. Il vient bientôt et il va régner de Jérusalem. Jésus est un signe de contradiction. De contradiction pour Israël jusqu'à ce jour. Jésus est un sujet de contestation et de dispute. Il n'est pas accepté comme étant le Messie. Les apôtres partagèrent l'idée de leur temps, l'idée du Sanhédrin des Juifs, sur le roi Messie, chef. Ils rejettent le signe de l'humiliation et de la souffrance, malgré tout ce que les prophètes ont dit. Ils n'avaient qu'à lire simplement Ésaïe 53. Ils auraient pu lire les psaumes où David parle de ses souffrances. Ils auraient pu lire tout ce que les prophètes disent de lui, du roi qui souffre pour le salut de son peuple. À l'heure de l'ascension, encore les disciples demandent avant que Jésus parte, « Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» dans Actes 1:6. Est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Ils n'avaient pas compris encore le sens de la première partie de la mission de Jésus, le sauveur, le serviteur, le roi rejeté, mais qui règne d'abord dans les cœurs, qui le reçoivent, et ensuite qui règnera sur toute la terre, bientôt. Nathanaël, rencontrant Jésus au début de son ministère, lui dit, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. C'est vrai, mais tous ne voyaient que ça. Pour lui, Jésus ne pouvait être que roi. Les disciples veulent la royauté immédiate. Alors, ils sont mécontents quand Jésus refuse l'élection de la foule après avoir fait le miracle de la multiplication des foules, des pains, pardon, et que la foule veut l'aduler, veut le prendre, veut le proclamer roi. Jésus s'y oppose, mais les disciples sont déçus, ils ne comprennent pas. C'est peut-être à partir de ce moment-là que Judas a décidé d'agir par lui-même et de forcer Jésus. Il a une telle puissance, il a un tel pouvoir, il peut enlever le pouvoir aux Romains, il peut s'imposer. Moi, je m'en vais le coincer. Il voulait l'obliger à faire un miracle pour se manifester. Mais Jésus n'a pas fait de miracle pour lui-même. Il n'avait rien à prouver. Il était le serviteur. Il était venu pour sauver l'homme du péché. Un jour, Jésus parlant à ses disciples de sa mort, Pierre lui dit, À Dieu ne plaise, Seigneur, jamais une telle chose ne se fera. Car il croit au Messie roi. Cette mort ne peut être. Cette mort, non, tu es Messie et tu es le chef. Elle ne peut être crucifiée. Au moment de sa mort, la contradiction augmente. La perplexité augmente, les questions s'accumulent. Il y a conflit entre trois aspects de Jésus. Son humanité souffrante, sa divinité toute puissante, mais dissimulée, et sa royauté future et glorieuse qui est à venir. Les Juifs qui sont témoins de ces choses sont assaillis de perplexité par l'inexplicable. La théologie, leur théologie ne peut expliquer ces choses-là. Et pourtant, leur théologie pourrait l'expliquer. Mais ils refusent de croire au Messie qui souffre. Pierre dit, lorsque Jésus est là devant le Sanhédrin, et que certains le reconnaissent, et ils disent, tu étais avec cet homme. Cette femme, cette servante lui dit, mais moi je te reconnais. Et il jure, je ne connais pas cet homme. Pourquoi? Il attendait un roi qui domine. Or, il est le serviteur qui souffre. Ils entendent Jésus affirmer devant le souverain sacrificateur qu'il est le Fils de Dieu. Et Pilate lui demande, tu es donc roi? Jésus répond, tu le dis, je suis roi. Alors les Juifs se moquent, car il ne peut être le Messie. Le Fils de Dieu ne peut être pendu au bois. C'est un usurpateur, et ils se moquent de lui. Salut, roi des Juifs. Pilate fait écrire sur la croix, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Vrai, pas mensonge. Ils croient comprendre, mais ils ne comprennent pas. Seul l'homme spirituel peut comprendre. La logique humaine ne sert de rien. Le brigand, en train de mourir, repentant, dit, Seigneur, souviens-toi de moi lorsque tu viendras dans ton règne. Il a une dimension supérieure à ceux qui se disent religieux. Souviens-toi de moi lorsque tu viendras dans ton règne. Donc, tu es roi. Je crois que tu es roi. Et je crois que tu as autorité sur la mort. Et je crois que toi, tu peux me pardonner. Et Jésus répond, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Là, Jésus affirme son autorité. Il affirme son pouvoir. Oui, je peux sauver. Et tu seras dans l'éternité avec moi. Signe de contradiction. Comment cet homme pendu au bois? Il ne voit en lui qu'un séducteur de la foule. Il ne voit en lui qu'un usurpateur d'un titre qui ne lui appartient pas, fils de Dieu. Et il voit en lui qu'un corps démantelé, pendu et retenu par des clous. Voilà ce qu'il voit. Car la Bible dit, dans Deutéronome, maudit celui qui est pendu au bois. Contradiction. L'homme intelligent ne peut comprendre. La logique humaine ne peut saisir. Ils n'ont pas compris le plan de Dieu. Et toi, l'as-tu compris? Comment reconnaître en lui le roi? Il a été un signe de contradiction à l'homme naturel. La dimension spirituelle n'a pas été comprise. Et combien peu l'ont comprise? Les Juifs ne pensaient qu'à la royauté messianique, temporelle, immédiate. Mais il était venu pour plus que les Juifs. Il était venu pour le monde entier. À travers les Juifs qu'il avait choisis. Ils n'ont pas compris que son règne commençait par la souffrance et qu'il était comme un agneau expiatoire pour les péchés. Alors, ils le rejetèrent. Et pourtant, ils ont offert tant d'agneaux, ils ont offert tant de taureaux sur l'autel, des bêtes parfaites qui étaient le symbole de celui qui serait offert une fois pour toutes. Car après la croix, plus de sacrifice. Il est le sacrifice expiatoire. Une fois pour toutes, mais ils n'ont rien compris. Paradoxe, contradiction, selon l'intelligence humaine. Il est venu non seulement pour Israël, mais pour le monde entier. Ils ignorèrent les prophéties du Messie, souffrant, du Messie brisé, humilié, qui porte l'iniquité du monde entier. Mystère, complexité pour l'homme naturel, contradiction. Éphésiens 3, 18 dit, « Puissiez-vous comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur de l'amour de Christ. Contradiction pour l'homme de chair, aveuglé par le péché, mais harmonie merveilleuse du plan du salut, non seulement pour le juif, mais aussi pour le grec,